La fin probable du projet Apple Car après 10 ans de recherche et autant de milliards de dollars dépensés, l'info vient de Mark Gurman, mais met-elle pour autant les ambitions d'Apple dans l'automobile et la mobilité au rebut? On va en discuter.
Le niveau 5 ou le niveau 4 d'autonomie qu'il souhaitait est devenu un niveau 2. Le niveau 2 est ce que font toutes les autres voitures depuis des années. Donc en fait, ça aurait été une non-nouveauté.
Plus de 100 000 visiteurs pour le Mobile World Congress 2024 à Barcelone. Un salon sans Apple comme d'habitude, mais avec Humane, la start-up qui a rejoint Ken Kocienda en 2020 pour en devenir le patron de l'ingénierie produit. Après avoir travaillé sur l'iPhone et chez Apple pendant 15 ans, c'est lui qui a rendu possible cet assistant à base d'IA qu'on fixe au revers de sa veste. À suivre l'interview de Ken Kocienda, réalisée à Barcelone entre enthousiasme, le sien, et vrais doutes, les nôtres, sur le destin de l'AI PIN.
J'ai trouvé que cette interview était un naufrage, en fait. Parce qu'elle n'est pas très longue, et quand tu lui demandes des exemples, en fait, il répète trois fois les mêmes exemples. Il n'en a pas d'exemples pour donner envie d'utiliser cette chose. Je trouve ça terrible.
Et puis, à ne pas rater non plus dans cet épisode 175, la mise en garde de Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur, grand Manitou, des nouvelles réglementations sur le numérique, dont le DMA, qui entre en application ce jeudi 7 mars. C'est la date butoir pour ouvrir le monopole des magasins d'applications, dont l'App Store.
Je ne veux absolument pas anticiper la façon dont ils vont s'y prendre. C'est à eux, encore une fois, de s'adapter à la nouvelle régulation et non pas l'inverse. Mais je répète, l'esprit, c'est fait pour que ça bénéficie évidemment à tous et en particulier aux plus petits. On y veillera.
Thierry Breton, qui était aussi à Barcelone lundi. Vendredi 1er mars 2024, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, il est 15h08 à Paris. Merci de votre fidélité à iWeek, la semaine Apple, dont voici l'épisode 175. Je suis Benjamin Vincent et c'est un vrai bonheur de vous retrouver. Mes amis entre deux avions, mes amis qui nous écoutaient et mes amis qui est avec moi aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être entouré de deux complices. Salut les garçons.
Hello.
Bonjour mon capitaine.
Je vais commencer par Elia Beatball en te souhaitant, avec 3 jours de retard, un très très bon anniversaire. Salut Elie.
Merci Benjamin, bonjour à tous. Et je profite aussi pour souhaiter à Benjamin, avec 2 jours de retard, un très joyeux anniversaire aussi.
Oui, on est presque jumeaux, hein, pas de la même année, mais à 24 heures d'intervalle. Merci Elie, merci beaucoup. Et puis toi Fabrice, c'est pendant une semaine, donc ton tour viendra. Fabrice Neumann, salut.
Salut, salut, tout comme il a dit.
Bon, je rappelle que tu es mentor en technologie et ton site c'est neumann.fr. On adore cette URL. On fait une bise aux absents du jour, Gilles Dounès, François Le Truédic et Baptiste Dajon. Et on passe tout de suite à l'événement de la semaine, en tout cas de la semaine prochaine. Une fois n'est pas coutume, on va parler des prochains jours et notamment de la sortie de la version 17.4 d'iOS qui est désormais en release candidate, comme on dit, et donc sur le point d'être mise à disposition du public pour être téléchargée. La sortie, vous êtes d'accord avec moi, ça devrait être entre lundi et mardi?
Probablement, de toute façon, elle est en release candidate. Hein, donc,
Donc avant le 7 mars, forcément.
Ben oui, mais oui, mais oui. Et oui. Et pourquoi le 7 mars? Parce que la date butoir fixée par l'Europe pour permettre notamment le sideloading, c'est donc jeudi prochain. Alors, on vous a déjà parlé ces dernières semaines en fouillant dans les premières bêtas d'iOS 17.4 du nouveau système, du nouveau dispositif imaginé par Apple pour à la fois répondre à la nouvelle réglementation en Europe, mais aussi en y trouvant son compte, et je pense notamment à cette taxe, ces fameux frais techniques de 50 centimes d'euros par téléchargement que devront payer tous ceux qui mettront en place un magasin d'applications alternatives pour les apps qui seront téléchargées sans passer par l'App Store. Les premiers magasins alternatifs, justement, sont déjà annoncés. On va y revenir dans quelques instants. Mais tout de suite, je vous propose d'écouter l'interview de Thierry Breton. Oui, j'ai rencontré le commissaire européen au marché intérieur en début de semaine à Barcelone, où il a fait une apparition surprise. On était alors à 10 jours très exactement de l'entrée en application du Digital Market Act. Monsieur le commissaire, bonjour.
Bonjour.
On est à 10 jours de cette fameuse date du 7 mars 2024. Qu'est-ce qui va changer concrètement pour les usagers du numérique en Europe à partir de cette date ?
D'abord, si vous voulez, il est clair que le DMA, c'est le DMA qui va rentrer en application et sur lequel nous allons maintenant commencer à vérifier, contrôler que les très grandes plateformes, ce qu'on appelle les gatekeepers, eh bien finalement respectent la loi, qui est désormais notre loi en Europe, c'est-à-dire de ne pas être dans des situations de monopole, de ne pas créer des effets d'éviction pour les plus petites entreprises, de ne pas s'approprier leurs données pour le compte de leur propre intérêt. Enfin, tout ce qu'on a vu, en fait, comme situation qui était un peu excessive, voire qui n'aurait pas pu avoir lieu dans l'espace physique, on a voulu maintenant mettre des règles. Ces règles vont s'appliquer. Donc, c'est une excellente nouvelle, évidemment, pour tous les acteurs, tous ceux qui veulent développer leurs applications dans l'espace informationnel, dans l'espace numérique. D'abord, la même loi pour tous. Mon rôle n'est pas de sévir, mon rôle est de faire que la loi s'applique. Et donc la loi s'appliquera. Enfin, nous avons un marché unique de la donnée. C'est-à-dire que vous êtes un développeur en France, en Espagne, ici nous sommes à Barcelone, au Portugal, que sais-je. Vous développez vos applications, elles sont valides avec la même régulation dans l'ensemble du marché unique. C'est extrêmement important parce que ça nous donne un accès à 450 millions de consommateurs. Mais ça veut dire aussi ne pas être gêné par les très gros qui voudraient quelquefois ne pas vous laisser la place. Donc on a organisé ça, comme dans l'espace physique. C'est donc une excellente nouvelle pour tous les créateurs, les petites entreprises, les moyennes et tous ceux qui vont vouloir développer ces applications.
Alors est-ce que les gros vont jouer le jeu ? Vous avez déjà des indications ? Les versions bêta des nouveaux systèmes d'exploitation sont déjà en train de tourner. Est-ce que ça se présente bien ou est-ce que vous allez sans doute devoir sévir ?
Vous savez, la loi, c'est ce que m'ont donné les co-législateurs comme pouvoir de faire en leur nom. Donc mon rôle n'est pas de sévir, mon rôle n'est pas veiller à ce que un tel ou un tel ne fasse pas les choses. Et donc on l'a vu du reste dans le DSA, bien sûr qu'il y a des discussions, c'est normal, parce qu'il faut changer les habitudes, il faut changer souvent la façon de travailler, il faut changer également parfois leurs propres applications eux-mêmes, leurs propres systèmes d'information, leurs propres algorithmes, mais voilà, c'est aussi le pendant de pouvoir bénéficier du premier marché numérique du monde libre. On est une fois plus important que le marché américain.
L'une des conséquences, c'est qu'Apple va devoir lâcher son monopole sur l'App Store. Alors on sait dans quelles conditions ça va avoir lieu. Les éditeurs, les développeurs vont devoir payer pour avoir le droit d'avoir leur propre magasin d'applications. Est-ce que c'est fair play ? Est-ce que ça répond aux exigences de la nouvelle réglementation ?
Alors, je ne veux pas commenter, encore une fois, sur telle ou telle société, d'autant que la société dont vous venez de parler est encore en train de discuter, donc je ne veux absolument pas anticiper la façon dont ils vont s'y prendre. C'est à eux, encore une fois, de s'adapter à la nouvelle régulation et non pas l'inverse. Mais je le répète, l'esprit, c'est fait pour que ça bénéficie, évidemment, à tous, et en particulier aux plus petits. On y veillera.
Thierry Breton, qui ne veut pas citer de géants, ces fameux gatekeepers, donc ils sont au nombre de 6 concernés directement par la vingtaine d'obligations et d'interdictions qui constituent le DMA. J'ai essayé de le faire réagir sur le système mis en place par Apple et sur cette taxe technique de 50 centimes d'euros par téléchargement d'application. Je lui ai demandé si c'était conforme à l'esprit de la réglementation. Mmh. Bon, toute évidence, il ne veut pas se mouiller avant jeudi. Ah,
une petite précision quand même. Les 50 centimes, c'est quand tu as atteint 1 million de téléchargements. C'est après le premier million de téléchargements.
Alors non, c'est dès le premier téléchargement si tu n'es disponible que sur ton magasin. Si tu es disponible à la fois sur ton magasin et sur l'App Store, effectivement, tu as 1 million de téléchargements, tu as une sorte de franchise, on va dire, de 1 million de téléchargements. Mm-hmm. Okay. Bon, dans certains cas, ça commencera dès le premier téléchargement. Par exemple, Epic Games, dès la première install de Fortnite, ce sera 50 centimes d'euros.
Oui.
D'accord.
Moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce qu'il a dit, c'est qu'ils sont encore en train de discuter avec Apple. C'est-à-dire qu'on est à quelques jours de la sortie du système, mais ils parlent encore. Hein. Donc, c'est assez intéressant.
Oui, c'est ce qu'on comprend. Alors, il y a Apple, évidemment, mais il n'y a pas qu'Apple. Hein. On peut peut-être rappeler qui sont justement ces très très grands qui sont concernés directement par cette entrée en application du DMA. Est-ce que vous les avez en tête hein? C'est facile. Hein,
Y a Google, il y a Microsoft,
il y a Amazon.
Apple s'en fait 3 et Amazon 4.
Il y a Meta.
4. Ah, 5. Ah,
et puis le sixième, c'est ByteDance, qui est l'éditeur de TikTok. Voilà,
bien sûr.
Les six grands. Donc, il n'y a pas que le sujet des magasins d'applications. Il y a aussi la protection des données personnelles et plein d'autres aspects. Mais évidemment, la partie la plus visible pour les Européens, potentiellement à partir de jeudi, ça va être... peut-être la première possibilité d'installer une application depuis une autre source que l'App Store. Epic Games donc, a confirmé le retour de Fortnite après 4 ans de bannissement en passant par son propre magasin hein, qui s'appelle l'Epic Games Store. Fabrice, on a aussi eu une annonce du côté de MacPo, l'éditeur ukrainien.
Oui, donc qu'on connaît pour l'utilitaire Clean My Mac X, mais qui fait aussi depuis longtemps un magasin d'applications alternatives sur Mac qui s'appelle Setapp, S-E-T-A-P-P, qui fonctionne sur abonnement. On s'abonne et ensuite on a accès au catalogue des applications disponibles sur Setapp de manière illimitée. C'est une sorte de Netflix des applications, on va dire ça comme ça. Et donc ils ont annoncé qu'ils arriveraient dans le courant du mois d'avril sur l'iPhone aussi, probablement sur le même modèle, on verra bien. Moi je suis un happy customer de cette app depuis plusieurs années maintenant et je suis curieux de voir comment ils vont gérer ça effectivement. C'est intéressant parce que je ne sais pas s'ils pourront faire le principe d'avoir un abonnement qui donne ensuite accès à un catalogue d'applications. Je ne suis pas sûr qu'en fait ça a été prévu justement dans tout ce que j'ai pu lire, de tout ce qu'on a discuté. Ça me paraît être un cas particulier par rapport à ce que propose Apple dans ses règles Monsieur Breton n'a pas voulu commenter.
Mais c'est exactement ce que je voulais dire, hein, c'est que je connais le modèle sur Mac, mais je trouve ça curieux qu'un App Store alternatif, iOS principalement, fonctionne avec un principe d'abonnement, si c'est le cas. Évidemment, on ne le sait pas encore, hein, mais je trouverais ça curieux.
Ouais. Bon, on va découvrir en tout cas un nouveau paysage hein, qui va se mettre en place à partir potentiellement de jeudi. Tout ne va pas arriver jeudi, évidemment. Dans le cas de MacPo, ils ont annoncé une version bêta de ce store alternatif pour courant avril, donc ça va s'étaler sur les mois qui viennent, mais il va évidemment se passer des choses. Le point de départ, ça va être donc la mise à disposition de cette version 17.4 d'iOS. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que je ne sais pas si vous avez vu les premiers retours de ceux qui l'ont installé, cette release candidate, mais ces retours sont faits essentiellement par des Américains qui disent en 10 secondes, évidemment, il y a tout ce qui concerne la nouvelle réglementation européenne, mais il y a surtout plein d'autres choses. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a déjà beaucoup de choses à dire sur le reste. Finalement, la mécanique d'ouverture au sideloading, finalement, c'est la partie, en tout cas aujourd'hui, qui va être la moins visible quand on va installer la mise à jour.
Oui, et ce qui est marrant, c'est qu'évidemment, il y a eu plein d'enquêtes hein, à ce sujet et que les utilisateurs, à une très grande majorité, disent « Ah non, non, mais nous, on va garder l'App Store. Hein. Non, on ne va pas y toucher. Hein. »
Eh oui.
Donc,
Oui, c'est normal parce qu'on est en plein dans l'inconnu. En plus, on ne sait pas comment ça va marcher véritablement. Et puis, on évoquait ça dans le dernier numéro aussi. On sait que les messages affichés par Apple, quand on sortira de l'App Store, ça sera tout pour faire peur. peur, ce sera Halloween toute l'année, quoi. Donc,
c'est
donc,
ça.
Il va falloir, faut le donner le temps au temps quand même. C'est-à-dire que il y a, faut voir comment ça va fonctionner et ensuite, il va y avoir ce qui sera intéressant. Ça va commencer par là. Et je crois que Élie en avait déjà parlé. Hein, c'est que il va aussi y avoir des magasins alternatifs dans lesquels on trouvera des applications qui n'existent pas du tout et qui n'ont jamais existé sur l'App Store d'Apple. Il y a les applis porno naturellement, mais il y en a d'autres de jeux payants, enfin de paris par exemple, des choses comme ça. Donc il y aura des choses, il va y avoir des gens qui vont choisir ça parce que c'est trop difficile de les mettre sur l'App Store. Et à ce moment-là, c'est là qu'on va trouver les premiers clients des App Store alternatifs.
Oui.
Il y a en particulier un App Store alternatif qui existait et qui existe toujours de façon beaucoup plus confidentielle pour les iPhones jailbreakés, où on trouvait des thèmes, des façons de customiser l'iPhone et des choses comme ça, des petites choses, des extensions qu'Apple n'aimait pas, comme du style rajouter l'appli que vous voulez dans CarPlay. Ça, j'avais jailbreaké rien que pour ça.
Moi, c'est Cydia, ça s'appelle toujours Cydia ou pas,
hein? Cydia, oui, absolument.
Ouais, c'est toujours Cydia. Oui, parce qu'il faut rappeler que à partir de jeudi pour ceux qui obtiendront l'accord d'Apple pour ouvrir un magasin externe, on rappelle que ça va pas être complètement facile non plus. Il va falloir montrer patte blanche, notamment montrer qu'on a de quoi aligner en fin de mois avec une lettre de crédit d'1 million d'euros. Mais Apple ne fera plus de contrôle sur le fond, uniquement sur la partie technique. Apple se contentera de vérifier que les apps ne mettent pas en péril le fonctionnement de l'iPhone, mais il n'y aura plus aucun regard, on va dire, politiquement correct sur ce que font ou ne font pas les apps.
Alors ça, politiquement correct, et puis sur tout ce qui est filtrage pour essayer de trouver des bugs ou des piratages intégrés aux applications. Apple n'est pas parfait dans ce domaine. Il y a des applications qui passent et qui parfois piquent un peu les données. Mais enfin, il y a quand même et c'est vite corrigé quand ça passe. Et là, on n'est pas sûr de ce qui va se passer sur au moins une partie des App Store alternatifs. Est-ce qu'ils seront aussi regardants en termes de sécurité? Probablement pas. Donc il va falloir aussi là, garder un peu, regarder ça et laisser le temps pour voir ce qui va se passer. Et autant sur le côté déclaratif de ces magasins d'applications pour voir s'ils vont faire déjà... S'ils vont déclarer qu'ils font attention et ensuite si ça s'avère vrai.
On reviendra évidemment la semaine prochaine sur les nouveautés visibles d'iOS 17.4 hein, qui sera devenu tout juste disponible probablement le jour où on enregistrera le prochain épisode 176. En attendant, on va passer à ce qui est l'info de cette semaine. Et cette info, c'est une info qui n'est pas confirmée par Apple, évidemment, puisque le projet lui-même n'existait pas officiellement. Mais cette info, elle concerne l'arrêt probable du projet Apple Car, arrêt qui aurait été annoncé en interne par Jeff Williams, le vice-président opérationnel d'Apple, celui qui est pressenti pour succéder à Tim Cook. Et ça marque la fin, on va dire, d'un vrai faux suspense qui dure depuis 10 ans, qui a englouti sans doute au moins autant de milliards de dollars.
Oui.
Et un projet dans lequel une partie d'entre nous ne croyions, avec un i, pas. Élie, toi le spécialiste auto.
Le Saint Thomas de cette histoire. J'ai toujours dit, vous pouvez aller dans les archives, depuis le premier jour que je n'y croyais pas, j'ai dit c'est comme la télé Apple. Et bon, après, je ne voulais pas le comparer à ce chargeur multi qui n'est jamais sorti. Mais en tout cas, c'est comme la télé Apple, un serpent de mer où tout le monde assurait, tout le monde avait vu, tout le monde était sûr que. Et me disait, ce n'est pas possible qu'Apple sorte une voiture, tout simplement. Parce qu'une voiture, il peut y avoir du hardware, de l'électronique pour du pilotage automatique. Et Apple s'est rendu compte que ce n'est pas si facile que ça. Parce que par rapport aux rumeurs, et ils ont travaillé sur cette partie-là jusque pratiquement la fin, le niveau 5 ou le niveau 4 d'autonomie qu'ils souhaitaient est devenu un niveau 2. Le niveau 2 est ce que font toutes les autres voitures depuis des années. Donc en fait, ça aurait été une non-nouveauté. Tesla a commencé, mais toutes les voitures allemandes d'aujourd'hui font du niveau 2. Hein. C'est vraiment très facile. Et pour le reste, évidemment, Apple n'a pas d'usine pour fabriquer, n'a pas de batterie, n'a pas de train de roulement, n'a pas de siège, etc. Donc, OK, on peut acheter à droite et à gauche, mais tout ça, ça prend des années. Et n'oubliez pas que Tesla, qui a été le premier à faire, enfin, premier constructeur nouveau, puisqu'il y avait des constructeurs traditionnels depuis des années et des années. Ils ont commencé l'histoire de la Model S en 2009, je l'ai vu moi. En Californie, presque dans un backroom. Elle est sortie en 2012, aux États-Unis uniquement. Et c'est maintenant que Tesla a une prédominance. Mais ça, il leur a fallu plus de 10 ans donc, pour arriver sur les différents marchés. Et ils ont une très, très grande avance hein, sur tout ce qui est autonomie, conduite autonome. Vous le verrez, il y a beaucoup de critiques. Moi, je suis le projet depuis le début, de très, très près. Quand ce projet va sortir, vous allez voir la différence et l'avance technologique qu'a Tesla sur les autres constructeurs, elle est monstrueuse. Vous le verrez. Et d'ailleurs, l'action de Tesla, pour ceux qui veulent en acheter, je peux vous dire qu'elle va quadrupler. Vous verrez. Prédiction.
Fabrice, comment est-ce que toi, tu t'expliques cette décision d'arrêt probable du projet autour de l'Apple Car ? C'est vrai qu'on n'a jamais imaginé... Par exemple, la Fnac ou les Apple Store devenir aussi des garages.
Non, mais c'est une des multiples raisons qui ont fait que j'y ai jamais cru non plus. Hein. Comme Ellie, plusieurs fois j'ai dit à ce micro, non, il n'y aura pas d'Apple Car, ce n'est pas possible. Pour faire un petit parallèle un peu osé, je parlerai du Vision Pro. J'avais évoqué la semaine dernière le fait que une des nouveautés du Vision Pro pour Apple, c'était qu'ils étaient devenus marchands de t-shirts, c'est-à-dire qu'il fallait qu'ils gèrent des tailles. D'habillement, ils deviennent vendeurs d'habillement et c'est le grand écart est encore pire pour une voiture, c'est-à-dire que non seulement il faut la fabriquer, éventuellement on peut acheter des, comme disait Ellie, des morceaux ailleurs. D'ailleurs Tesla a commencé sur une plateforme de Lotus, hein. Le Roadster c'était une Lotus d'abord, ils n'ont pas tout inventé et c'est très bien comme ça, ils ont fait appel à des spécialistes, mais là au-delà de ça, vendre, donc il faut un autre canal de distribution, la vente de voitures ça repose beaucoup sur la négociation au moment de la vente, ensuite il faut assurer le service après-vente, la maintenance, même s'il y en a moins sur une voiture électronique aussi. C'est un autre métier, c'est vraiment un métier totalement différent. Donc ce sont de multiples raisons qui font que c'était pas possible et que l'abandon, même s'il n'est pas officiel, a priori, on est tous d'accord pour dire que ça a été annoncé en interne malgré tout et que donc on sait que ça se fera pas. C'est une sorte pour moi de, le terme est un peu fort, j'en ai pas trouvé d'autre, mais vous comprendrez, de dernier clou dans le cercueil de Johnny Ive. C'est-à-dire que, visiblement, il y a 10 ans et quelques, Johnny Ive, il savait pas trop quoi faire. On lui a dit, tiens, tu vas rester là. Puis aussi, un certain nombre d'ingénieurs qui, ne voyant rien de nouveau venir, commençaient à avoir des fourmis dans les jambes pour aller ailleurs. Et du coup, Apple a dit, très bien, alors on va mettre des milliards et puis vous allez rester faire mumuse dans l'immeuble d'à côté pour construire une voiture. Mais c'est pas possible, quoi. Et puis, je suis d'accord avec Ellie. Autant il y a 10 ans, on pouvait peut-être espérer d'avoir 10 ans plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, je pense que beaucoup y croyaient, hein, des voitures totalement autonomes, que c'était prêt, qu'on allait avoir une sorte de service. Je vais encore utiliser le mot Netflix, l'abonnement Netflix style Netflix pour la voiture, où on appuie sur un bouton, il y a une voiture qui vient vous chercher quand il y a besoin. Peut-être que Tesla arrivera à faire ça, c'est pas encore tout à fait prêt, mais en tout cas, c'est pas Apple qui va le faire. Donc, il y a aucune raison pour qu'Apple fasse une voiture.
J'ai envie de te dire avec un brin d'humour que ça s'appelait Autolib à Paris, mais que ça a foiré.
En fait, il y a, comme vient de dire Fabrice, il y a une raison très, très importante dont on n'a pas parlé, qui est la législation. Parce qu'aujourd'hui, un certain nombre de choses, comme venir chercher quelqu'un ou aller se garer tout seul, Tesla l'a montré, ils savent le faire. Et d'autres, Mercedes sait le faire aussi. Mais il y a un énorme problème, premièrement, d'assurance, parce qu'à en France, en tout cas, et je crois que c'est le cas dans la plupart des pays européens, si le conducteur n'est pas derrière le volant, à l'intérieur de la voiture n'est pas assurée. C'est-à-dire qu'une voiture qui irait se garer et qui ferait un accident, qu'est-ce qui se passe, qui paye? Et c'est une des raisons pour lesquelles l'autopilote aux États-Unis est très en avance par rapport à la France. C'est parce qu'on est en France. Moi, j'en ai parlé une fois avec des gens de Tesla. Ils m'ont dit, oui, mais le problème, c'est que on ne peut pas le sortir, même en bêta. La législation nous l'interdit. On ne peut pas le faire. Et l'autre chose, très, très importante, et Fabrice en a parlé aussi, c'est la partie après-vente. Parce que je me rappelle des débuts des voitures électriques et de Tesla. Il y avait un centre de maintenance qui était à Paris, où il fallait aller chercher les voitures. Il n'y avait pas de superchargeur. On ne pouvait pas arriver à Nice. Hein, donc, il fallait une semaine pour amener la voiture à Nice. Hein, donc, et ça, si on n'a pas des centres, et jusqu'à il n'y a pas si longtemps, il fallait aller à Aix pour réparer sa Tesla. Donc, ce n'était pas facile non plus. Hein, et ça, je parle d'il y a vraiment quelques années. Hein. Donc, si on ne peut pas avoir des ateliers, des centres de maintenance partout dans le monde, c'est un échec. Et donc, Apple n'est pas prêt du tout à faire ça.
Alors, je voudrais juste citer l'ancien CEO de General Motors. C'était en 2015, a priori. Selon lui, Apple sous-estimait complètement la difficulté à se lancer sur le business de la voiture. Je cite, ils n'ont aucune idée de ce dans quoi ils mettent les pieds. Ça ressemblait vraiment à un avertissement. On était alors en 2015. Il y a quand même des signes qui montrent que ce projet n'était pas un fantasme. Il y avait des bureaux secrets qu'Apple a occupés à Sunnyvale, donc tout près de Cupertino, pendant des années. Apple a déposé des noms de domaine comme apple.car et apple.auto. Ils ont embauché des centaines de personnes. Je crois qu'à un moment, on a parlé de 2000 personnes, il me semble, qui bossaient sur le projet.
C'est 2000 maintenant. C'est même monté au-delà, en fait.
Ah,
c'est,
d'accord.
Ça concerne aujourd'hui 2000 personnes qui seront, paraît-il, recasées, notamment dans l'intelligence artificielle. Cela dit, les spécialistes des trains de roulement, je ne vois pas trop ce qu'ils vont pouvoir faire en intelligence artificielle.
Alors, j'ai beaucoup lu, comme vous, ces dernières heures, que Apple arrêtait le projet Apple Car pour transvaser les compétences sur l'intelligence artificielle générative. Je ne crois pas du tout que ce soit lié, personnellement. Après, il y a peut-être un moment où les priorités changent. Mais, et puis, il y a aussi un constat, sans doute, que le projet n'irait nulle part. Mais j'y vois plus peut-être une coïncidence dans le temps avec le lancement du Vision Pro. Et finalement, Apple se rend compte qu'ils ont intérêt à parier sur d'autres marchés, d'autres
si on suit
gammes.
La logique de oui absolument de la création de ce projet pour essayer de garder des ingénieurs chez Apple plutôt qu'ils partent à la concurrence. Maintenant, il y a au moins une partie d'entre eux qui peut trouver un intérêt, notamment dans tout ce qui est vision par ordinateur, justement le Vision Pro, et il reste encore plein de choses en devenir sur justement le mappage 3D autour de soi, la reconnaissance d'objets. Enfin, il y a des points communs là. En revanche, entre le Vision Pro et la voiture autonome, qui utilise des caméras et tout un tas d'autres capteurs pour reconnaître ce qui se passe autour de soi et puis l'afficher ou le traiter. Donc là, je pense qu'il y a au moins des centaines d'ingénieurs qui peuvent participer au Vision Pro dans ce domaine-là.
Mais ouais, il faut repartir from scratch parce qu'en fait, Apple... je pense par sécurité, utiliser le même système que la plupart des autres constructeurs à base d'un LIDAR, qui est un truc moche qui se balade au-dessus du toit de la voiture, etc. Alors que Tesla utilise les caméras de la voiture. Ils avaient même arrêté à un moment donné les radars, mais ils les ont remis par sécurité. Et ça s'appelle Tesla Vision. C'est-à-dire que si vous regardez un jour une vidéo, ça analyse absolument tout ce qui se passe autour de la voiture. On a les piétons, on a les signes, on a les feux de circulation, etc. Et tout se fait avec un réseau neuronal énormissime. Et tout se fait par analyse d'image. Donc, effectivement, ça aurait pu être quelque chose, sauf que tout ce qu'a essayé Apple, ce n'était pas là-dedans. Par contre, un signe qui montrait que ce projet n'allait pas bien, ça a été progressivement la partie interface. Le dernier, c'est qu'Apple a passé des accords avec des constructeurs très connus, comme Porsche, par exemple, pour intégrer l'interface Apple dans ses voitures. Et on parle aussi de Mercedes, etc. Donc, la prochaine version 17.4, puisqu'on en parle depuis tout à l'heure, incorpore la possibilité de récupérer les informations de la voiture, du style pression des pneus, du style vitesse, du style des tas de choses, et les afficher par CarPlay dans l'interface de la voiture. Donc, en fait, on se rapproche de ce qu'aurait été l'interface Apple d'une voiture, Apple, mais chez les autres constructeurs, ce qui permettra à Apple de gagner de l'argent, parce qu'ils ne vont pas faire ça gratuitement. Hein, mais voilà, donc c'était un peu le dernier clou, si j'ose dire.
Ouais. Alors, depuis des années, on voit passer des visuels imaginés par des fans de ce à quoi cette voiture Apple aurait pu ressembler. On sait, a priori aujourd'hui, quelle était l'inspiration. De manière assez étonnante, c'est une voiture européenne qu'on a bien connue. C'est le Fiat Multipla, pour ceux qui s'en souviennent.
Un cube. Oui. Voilà.
C'est assez moche, en fait.
La voiture des Barbapapa.
C'est
ça. Mais, cube. Mais ce qui a du sens, en fait, c'est-à-dire que dans la démarche, au moins au début de ce que souhaitait faire Apple, a priori, c'était d'avoir un véhicule sans volant, sans pédale. Et donc, si tu fais ça, du coup, vaut mieux avoir un cube dans lequel tout le monde peut être assis correctement, en plus en étant ou face à la route ou pas. Justement, plutôt sous forme de salon, dans le genre dernier salon où l'on cause, où on peut causer les uns devant les autres en se regardant pendant que le véhicule roule tout seul. Donc ça a du sens de ce point de vue-là.
Renault a inventé ça avec l'espace il y a 30 ans. Hein.
Oui.
Parce qu'on pouvait retourner les sièges pour faire un tarot.
Oui, c'est vrai.
Oui, mais pas mais sans que la voiture roule, du coup.
Oui, c'est vrai, il fallait quand même un conducteur, c'est vrai. T'as raison. Bon, est-ce qu'à votre avis cette info de Mark Gurman signe définitivement la fin des projets d'Apple dans l'univers de l'automobile pur et dur? Est-ce que vous pensez que c'est vraiment terminé, ou est-ce que ce pourrait être le énième rebondissement d'un projet qui pourrait redémarrer dans pas très longtemps?
Vu qu'on n'y a jamais cru, ça serait dommage si on se mettait à y croire maintenant. Alors là...
Ah oui, on va devenir les plus mordus, genre, mais oui, bien sûr.
Non, mais je vous avoue un petit secret, c'est que j'espérais avoir tort. Je me suis dit, et si un jour je sors, et j'avais commencé à mettre de l'argent de côté en disant, mais je vais l'acheter, c'est pas possible. Et donc, bon, tant pis, hein, je vais faire autre chose.
On était pas seul à dire que Apple t'as fait gagner le prix d'une voiture.
Oui, mais oui.
C'est ça.
Du coup, je vais peut-être m'acheter un Vision Pro, quoique. Il paraît qu'il se fendit, donc non, peut-être pas.
Non, effectivement, je pense pas qu'il puisse revenir dessus. Il y a autre chose. Un des commentaires qui m'a plu parmi plein de gens qui se sont prononcés. Déjà, le fait que Gurman en parle, il a l'air assez sûr de lui. Il a même fait au moins 2-3 paragraphes pour dire « c'est vraiment dommage tout ce que va perdre comme potentiel Apple dans ce domaine ». Bon, très bien, admettons. Je ne suis pas persuadé. C'est une des rares fois, ça me fait tout bizarre d'être autant en désaccord avec Gurman, justement. qui était il soulignait beaucoup l'intérêt de l'Apple Car. Et moi, c'est vraiment un truc que je n'ai jamais compris. Et donc, ça me fait tout bizarre, mais c'est comme ça. L'autre, pour boucler la boucle, avec ce qu'a évoqué Ellie au début de cette discussion, c'est qu'un des commentaires de certains, c'est de dire mais c'est quand même dommage que plutôt que d'essayer de faire une voiture, Apple n'ait pas justement mis un dixième de ce pognon-là pour faire un téléviseur, justement. Parce que ça, ils auraient pu le faire en vrai, avoir un téléviseur très haut de gamme et du coup le sortir et avoir... J'ai bien aimé la façon d'aborder ça. Un téléviseur haut de gamme, donc ils auraient siphonné tout le marché haut de gamme de la télévision, parce que c'est ça qu'ils font Apple quand ils arrivent sur un marché. Et en plus, comme on est maintenant sur un marché de services dans la télé que de matériel, avec Apple TV+ et tout un tas d'autres trucs, ils auraient pu plus ou moins facilement créer un marché, en tout cas se faire une belle place au soleil sur un marché plus facile pour eux que sur cette stupidité de voiture.
Non, je suis pas d'accord, parce qu'en fait, pardon, excuse-moi, je ne suis pas d'accord, respectueusement.
Non, mais il vous en prie.
Mais on en avait parlé à l'époque de la télé Apple, et moi, ce que j'avais dit, c'est plutôt que de créer un téléviseur qui sera plus ou moins joli et être en concurrence frontale avec Sony, Samsung, LG, etc., il vaudrait mieux qu'Apple développe du contenu qu'il puisse vendre à tous ces gens-là. Et je pensais à une interface. Cette interface s'appelle l'Apple TV. Enfin, à l'époque, c'était l'Apple TV qui fonctionnait sur tous ces téléviseurs. Et aujourd'hui, c'est Apple TV+, Apple Music, etc., qu'on voit de plus en plus en natif sur les télés. Donc, plutôt que d'être en concurrence frontale, il vaut mieux avoir des services, tu en as parlé, qu'on vend à tout le monde. Et il vaut mieux ne pas avoir une télé si on veut vendre des services aux autres, parce que sinon, il y aurait eu une sorte d'hostilité.
Ouais, c'est pas faux.
En tout cas, enfin, ils font bien Apple Music contre Spotify, hein.
C'est vrai.
C'est vrai. C'est vrai.
C'est vrai.
En tout cas, cette nouvelle de l'arrêt probable du projet Apple Car, on l'a reçue alors que le Mobile World Congress à Barcelone n'avait pas encore fermé ses portes. Et sur place, on a découvert la première voiture de Xiaomi, le fabricant chinois de smartphones, enfin aussi de trottinettes électriques et de montres connectées, de tout un tas de produits électroniques. Ça faisait drôle de se dire que Apple coupait le contact sur le projet Apple Car alors qu'une marque comme Xiaomi justement arrivait avec sa propre voiture. Alors, avant de passer au Mobile World Congress, un petit rappel pour vous dire que iWeek Express, vous le savez, c'est notre podcast en mode breaking news, le premier podcast indépendant d'information sur l'écosystème Apple à la parution imprévisible puisqu'elle est déclenchée par l'actualité. Dès qu'une info de dernière minute d'importance nous arrive, on enregistre et on diffuse un nouveau numéro avec deux priorités, avoir du recul même à chaud et puis la plus grande réactivité possible. Et la nature même d'iWeek Express, son caractère imprévisible, rend l'abonnement qui est gratuit encore plus essentiel. Alors ne ratez pas l'occasion, puisqu'on en parle maintenant, de vous rendre sur votre plateforme de podcast préférée et de vous abonner à iWeek Express. C'est gratuit et donc ça ne coûte rien.
Si je peux me permettre, on vient de passer 2 mois de presque calme plat sur les énormes news, mais attention, parce que ça va démarrer sur les chapeaux des roues à partir du mois de mars. Donc, soyez prêts. On risque d'avoir plus d'un numéro d'Express dans les semaines qui viennent.
C'est vrai, c'est vrai. On attend donc, notamment cette keynote annoncée pour le mois de mars. On est le 1er mars, donc potentiellement, ça peut arriver à n'importe quel moment. Alors, on passe à l'événement de cette semaine. Cette fois, c'est donc le Mobile World Congress qui a fermé ses portes hier soir jeudi à Barcelone. Bilan assez positif, en tout cas bilan en termes de fréquentation avec plus de 101 000 visiteurs en 4 jours. 101 000, c'est un niveau qu'on n'avait plus connu depuis le Covid. Le record, ça reste l'année 2019 avec près de 110 000 visiteurs. On n'en est plus donc très loin. On va se souvenir qu'il y avait quand même eu 2 éditions du Mobile World Congress qui avaient été annulées en 2020 et 2021. Alors Apple, comme d'habitude, était absent à Barcelone. On y a vu moins de grandes annonces que les années avant Covid. Samsung, par exemple, avait déjà fait les siennes le 17 janvier pour la gamme Galaxy S24. Les deux principales conférences la veille de l'ouverture ont concerné Honor et Xiaomi, donc deux fabricants de smartphones chinois sous Android. Honor avec le Magic 6 Pro d'un côté qui sort aujourd'hui ce 1er mars à 1299 €. Et puis chez Xiaomi, la série 14 avec le 14 Ultra qui lui est positionné à 1499 € et qui arrive à la mi-mars, donc dans une quinzaine de jours. Alors sur le salon, un petit coin de stand a fait l'un des gros buzz cette semaine. On y trouvait en effet l'équipe de Human, cette start-up californienne créée par deux anciens d'Apple en 2018, qui ont créé donc cette AI pin, cet écusson à la Star Trek auquel on parle et qui répond, qui est doté d'une eSIM et d'un projecteur laser pour afficher des commandes et des notifications sur la paume de votre main. Et c'est vrai qu'après un très bon teasing à l'automne, l'intérêt semblait avoir dégringolé depuis l'ouverture des précommandes en novembre. Il reste quelques semaines à peine avant la livraison des premiers exemplaires. L'équipe au complet était donc sur le pont à Barcelone pour sa première sortie publique. C'est la première fois qu'on voyait le AIPIN pour de vrai, même aux États-Unis, sauf quelques très privilégiés, personne ne l'avait vu dans un salon. Et évidemment, je ne pouvais pas rater l'occasion de rencontrer quelqu'un dont le nom résonne aussi dans l'histoire d'Apple, c'est Ken Koscienda, qui a travaillé dans l'équipe iPhone, à qui on doit notamment l'autocorrection sur l'iPhone. Et il est à la tête de l'ingénierie chez Human autour du AIPIN depuis 2020. Je vous propose de le retrouver. C'était cette semaine à Barcelone.
Well, I've been at Humane since December of 2020, so it's a little over 3 years now. And I joined the company because the two founders, Imran Chaudhry and Bethany Bongiorno, I used to work with them at Apple years ago. And so I heard that they were working on this exciting new AI product. And I just had to join. It's just so exciting.
What exactly have you been bringing to the team, and what have you done to make it possible?
So I'm the head of product engineering at Humane. So I work very closely with Imran on the design of the product. We have a wonderful design team. And so we talk, we prototype, we imagine, we build. Small ideas about what we want the product to be. And then my job is, once we have some ideas that we start to like, go out and talk to the engineering teams, bring them into the process, work with them to do all of the research and development necessary to actually make the product real. And I'm wearing one now, so I think I'm happy with our results. We've done a pretty good job.
What was the idea when you started, and how much has it evolved until now?
Well, the idea was that AI is advancing to the point where we can rethink the way that people interact with computers. Now, with large language models, when you talk to the computer, it understands you. And this is just a huge change from the way computers have been for decades, where there are apps, there are icons, you know, on desktop and laptop computers. There's a pointer on the screen. With a smartphone, you can touch, but it's really up to you to drive the machine. You need to go and launch apps. You need to type what you want, and the computer doesn't really track or understand what you're doing. So what we're doing with the AI PIN is now. The large language model understands what you want, and it can go and launch the apps. We call them experiences. It can go and launch the experiences. It can go and search the internet. It can go and find music and play it for you. And so AI is just powering the whole system. And this was part of the vision right back from the beginning when Imran and Bethany founded the company in 2018.
What were the biggest engineering challenges for you to make this product possible?
Well, the product is very small, and so dealing with power and thermals, the network connectivity, so just making the hardware function properly is a big challenge. But then there's also the software, and for this device, the software runs on the device. I understand that this is audio, but so what I'm doing now is showing the laser of the device, and so I'm moving my hand around and changing the selection in the laser. So getting the machine learning models working was very, very important challenge for us on the device. But then there's also the cloud, so figuring out how the cloud interacts with the device. And then, works, it continues to function on the hardware. So it's hardware, the local software, the cloud. That was a big, big challenge.
How important is the projector in the AI PIN? What is it for?
Well, see, really, mostly the device is voice first. Right? You talk to the device. It's just right here. I'm wearing it on the lapel of my jacket. So I go to it, I talk to it, and then when I'm done talking and when it's done talking to me, I'm done, right? I don't really need to put anything down. I didn't pick anything up. So now, sometimes, if you're interested in learning a little bit more, or if maybe I'm here in Barcelona at the conference, I do a currency conversion. I want to know how many euros is in a certain number of dollars, and I want to check the number. I go to the laser and I can just very quickly see. So what the laser does is it's a very lightweight way of looking at the information, kind of checking on things. But then also it's very, very good for lightweight control, like playing music, going to the next song. So it's just really, it's not about reading. It's not about content consumption. It's about very, very quick consumption of information and very, very lightweight control of the way that the, you know, the experiences that are active.
For example, when you receive a text message or a WhatsApp message, is it best to listen to it or have it projected on your hand?
It's a great question, because a lot of times if you get a long text message, you can have the AI summarize it for you. And it's very, very quick to tell you what was in maybe a complicated message. Gives you a good, quick summary. Of course, you can also then, if you want that full text message, you can then go into the laser and you can scroll, and maybe that's a more convenient way. So once you have the device, you can learn, is it maybe better to get a short summary spoken? Or maybe look in the laser and, you know, and read a more, you know, a longer message and get all the way to the bottom of it. So it's your choice.
You started to take orders in November, I believe.
Yes.
It's shipping very soon. Has it started yet?
So we are selling the AI pin in the United States. You can go and order it right now on humane.com. And we are shipping the devices starting next month. Yeah.
How is it going? Because there has been a huge buzz around it. And also it's a difficult product to introduce because it is revolutionary on many aspects. So a lot of people wonder, how is it going to change my life?
Well, you know, it's for me, I wear the AI pin now for several months. And I go to it many times a day. I'm curious about the world. So things come up. I'm in Barcelona. I ask about Barcelona, maybe what sites I should go see, maybe if I can get some time away from the conference. Or, yeah, things like currency conversions or just learning about the city. When was it founded? How many people live here? You know, maybe how long would it take to take a train ride to Madrid? So it's just very, very quick and easy for me to just learn about the world, ask about things that are on my mind right in the moment. And so that's what I use it for, and it's great for that.
So you've worked at Apple for 16 years, I believe. What a difference does it make for you to switch from Apple to a startup as Humane?
Yeah, so it's not quite 16 years. It was a few weeks short of 16 years at Apple. And it was a great experience. I had a great time at Apple and made some products I'm proud of, and I learned a lot. Switching to a startup, it is very different because you need to do everything from the beginning. You know, Apple is a company that's been in existence for a long, long time. So there's a lot of infrastructure in the company that's built up. At Humane, you know, when we need to do our daily builds, we needed to have, hire somebody to do that. So you have to think of all the things that you need. But the advantage of that is that you get to rethink from the beginning. And that's really what the AI pin is about, is coming up with new ideas, looking out in the world about the new hardware, the new software. You know, we're all so excited about AI and its potential, and putting all of that together to make a new product from scratch. So that's what's really exciting for us. And that's something that I when I learned about it, I just had to be a part of it.
We are in Barcelona. I'm French. I'm wondering, when can I get an AI pin in France?
Right. So that's a great question. It's one of the big reasons why we're here at the Mobile World Congress is we're talking to telecom partners all around the world. And in fact, just this morning, we announced a partnership with SK Telecom to bring the AI pin to Korea. So that's just a press release that we made just this morning. And so I think maybe, keep listening, keep watching. We're talking to more companies, and I hope that we can come to Europe and to France as soon as we can.
So the main issue is to have a deal with telecom partners.
That is a big milestone that we need to clear before we introduce the product in a new market, because it is a standalone device. So it has its own eSIM, you have your own phone number, but then also, you need the access to the network, and it's important to us to customize the services to each country. Each country, each language, each culture is different. The apps and the services are different in each country, what's most popular. And so we're taking a little bit of time to do the best job so that when we come to a country, we're ready. And so that it will make sense to people when they hear about what the offering is. And they'll be interested, enthusiastic, and willing to dive in and buy one for themselves.
Could you just make a little demo of the AI PIN using French and English, maybe?
Sure. So I'll ask a question I'm interested now that I'm in Barcelona. How much is 50 euros in US dollars? So it's going to go off, and it's going to do the currency.
Converting currency. 50 euros is equivalent to $54.26 in US dollars.
Great. Translate that answer to French. So the AI PIN knows what it's done. It remembers, right? And then it can just go off. Okay. So now it's just very, very easy for me to do a mashup, right? I can take an answer to a general knowledge question and then just very, very quickly convert it, translate it to French. So I can also set the device to translate to French. Translate to French. I'm very happy to be speaking to you today and showing you Humane's new product.
Je suis très heureux de vous parler aujourd'hui et de vous montrer le nouveau produit de Humane.
Correct. Yeah. So, to me, it is. I don't speak any French, and so, but I am interested in France and love to meet French people. And the AI PIN now helps me to communicate better. And the world is a very big place. We just had our chief financial officer a couple of weeks ago was taking a cab, and it wasn't an Uber, so the driver didn't know where he was going, and the driver didn't speak English. And so, what language did the cab driver speak? It was Uzbek. And so, I don't speak any Uzbek, and neither did our CFO. And so he could use the AI PIN to help the driver, to communicate with the driver in his language so that the driver could understand where he was trying to go. And it's just, it feels like magic to just, in the moment, be speaking a whole new language and opening up that communication channel to someone from a different place in the world. And so that's the kind of promise that we are very, very excited about. And I hope that soon we can bring the product to France so that people there can see and try it and bring the AI PIN into their lives.
Is it possible for a startup as Humane to start working on maybe accessories or other products while you're just launching your first one?
Over time, we've got a lot of ideas for new products, maybe new accessories, and in the future, keep watching. We'll tell you about them when we're ready.
Thank you so much, Ken.
Well, it's been great chatting with you. Thank you.
Voilà Ken Koscienda, le patron de l'ingénierie produit aujourd'hui chez Humane. L'arrivée de l'AI PIN venait donc d'être annoncée en Corée du Sud en partenariat avec SK Telecom. Elle a depuis été annoncée également aussi au Japon, cette fois en partenariat avec SoftBank. Et on peut imaginer que d'autres pays vont suivre au fil des accords avec les opérateurs télécom, puisque, on le rappelle, aux US, il y a un abonnement de $25 par mois, si je ne me trompe. Hein. Rien que pour la partie connexion à la 5G pour que le AI PIN puisse interroger Internet et les serveurs de Human. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette interview, de cette rencontre avec Ken Kosienda? Alors, je pose la question à différents niveaux. Je sais que Fabrice, tu as de gros doutes sur le succès de ce produit qui est quand même assez bluffant. Mais tu n'y crois toujours pas, hein, c'est ça?
Ah non, c'est pas des gros doutes, c'est d'énormes doutes. et alors je vais aller peut-être très fort, mais j'ai trouvé que cette interview était un naufrage en fait, parce qu'elle est pas très longue et quand tu lui demandes des exemples, en fait, il répète trois fois les mêmes exemples. Il n'en a pas d'exemple pour donner envie d'utiliser cette chose. Et je trouve ça terrible. Et puis quand il fait quelques démonstrations, c'est lent parce qu'il faut que ça se connecte toujours à Internet. Et il démontre par exemple de la traduction.
On était sur un salon avec le réseau sur sollicité, on va dire.
J'y venais parce que j'ai envie de dire que. Évidemment, au moment où tu vas en avoir besoin, ce sera comme ça. Je force le trait exprès, mais on trouve, pour faire de la traduction simultanée, ce qui n'était pas le cas ici d'ailleurs, parce qu'il ne t'a pas proposé de répondre ensuite. Il a parlé en anglais ça traduit en français, mais toi, tu n'as rien dit dans l'interview, tu n'as pas répondu pour que lui puisse ensuite comprendre quelque chose. Il aurait fallu qu'il appuie sur son truc, etc. Donc, c'est moins pratique que de le faire sur un smartphone. On peut avoir des trucs de traduction simultanée pour 15 balles ou 30 ou 50. Ça déborde des publicités Instagram pour faire la même chose, mieux et moins cher. En gros, mon problème avec ce truc-là, c'est que ça ne fait rien de mieux que un smartphone. Faut se rappeler un truc, lorsque Steve Jobs a sorti l'iPad, un de ses arguments c'était de dire on crée quelque chose qui fasse, pour que ce soit acceptable et que ça ait une place, il faut que ça fasse certaines choses mieux que soit le smartphone, soit l'ordi. Et il a utilisé comme démonstration le mail, par exemple, parce qu'il pouvait être dans sa démo assis sur son fauteuil Le Corbusier et faire du mail et trouver que c'était mieux. En tout cas, c'était sa démonstration. Mmh. Là, il n'y a même pas ça chez Humane. Il n'y a pas une seule fois une phrase qui dit « on fait mieux qu'un autre appareil qu'on pourrait remplacer ». Donc, le smartphone est versatile, ça veut dire qu'il sait tout faire. Et ça fait un sous-ensemble de trucs et ça le fait mal, moins bien. Donc, non, ça ne sert à rien. Donc, c'est très surprenant, quoi. Et donc, peut-être le léger doute que j'aurais sur mon jugement, c'est que je suis très étonné que quelqu'un comme Ken Kosienda y soit. Donc, je pense qu'il y a cru. Moi, alors je suis biaisé naturellement, en l'écoutant, je trouvais qu'il n'y croyait déjà plus, mais je suis parti battu, donc voilà, naturellement. Mais voilà en gros mon avis sur le sujet, je pense que ça n'arrivera nulle part.
Bon, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que je trouvais moi aussi qu'il n'y croyait plus vraiment lui-même, malgré tous ses efforts pour prouver le contraire. Juste un mot sur quand même l'utilisation dans le cadre du salon, il y a un point qui est quand même très positif, c'est que dans le brouhaha du salon, le AIPIN captait très très bien ce qu'on lui demandait. Quelles que soient les langues dans lesquelles je l'ai vu fonctionner ou être testé, il n'y a pas une seule fois où ça n'a pas marché et où il n'avait pas compris la question. Donc, ça, c'était quand même déjà un point assez positif. Élie ?
Bah écoute, moi, je suis partagé parce que j'ai déjà dit que je n'y croyais pas lorsque on a découvert le produit. Mais bon, son discours, certes, est vendeur. On peut ne pas tout y croire, mais moi, je l'ai trouvé en tout cas intéressant à entendre. Technologiquement, il faut reconnaître que c'est quand même très différent de ce qui existe aujourd'hui parce que c'est extrêmement miniaturisé. Moi, je l'ai pas vu en vrai. Hein. Toi, tu vas pouvoir nous en parler, mais pour pouvoir avoir un système qui a de la mémoire, qui a un processeur, qui a une batterie, qui a un projecteur laser, pour pouvoir, même si c'est pour afficher sur le coin de la main, tout ça dans une très 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 petite taille, c'est un exploit technologique. Maintenant, on connaît pas du tout l'autonomie de la batterie. par exemple, on n'en parle pas.
Excuse-moi, Benjamin, je montrais à l'écran, donc pour ceux qui n'ont pas la couleur, ils n'ont pas vu, je montrais ma montre, quand, pas pour montrer l'heure, mais pour quand Ellie dit c'est ultra miniaturisé, mais la montre sait déjà faire ça, c'est plus petit. On lui parle à la montre, elle est autonome quand on a une montre 4G, et c'est déjà plus petit, et ça tient toute la journée. Donc, non. et la montre, elle n'a pas besoin de projecteur laser pour montrer quelque chose. Elle a un écran. Quand tu as une montre 4G pour qu'elle soit vraiment autonome, il y a un abonnement. Alors en France, c'est 5 euros de plus. Mais il ne faut pas comparer tellement parce que le prix des abonnements 5G en France, en Europe, est moins cher qu'aux États-Unis. Ouais, donc on verra comment c'est ici en Europe quand ça sortira, si ça sort. Donc, c'est pas miniaturisé. Non, c'est pas vrai. c'est ça qui est fou, c'est que la technologie d'autant plus que en fait ça fait quasiment rien sur l'appareil. Donc si t'as pas de connexion internet, tu ne peux absolument rien faire avec.
C'est vrai. La différence quand même avec un smartphone et avec une montre connectée comme l'Apple Watch, c'est le projecteur laser quand même. C'est l'idée quand même assez sympa d'utiliser la paume de la main comme un petit écran et de projeter sur la paume de la main soit des commandes avec lesquelles on va interagir en bougeant la main ou en effectuant une sorte de clic en rapprochant tous les doigts et en les écartant. Soit pour afficher des notifications. Alors évidemment, on ne va pas afficher un roman, on ne va pas lire un livre hein, sur la paume de sa main, mais un message WhatsApp ou un SMS de quelques mots qui apparaît, on n'est pas obligé de l'écouter en demandant à ce qu'il soit restitué par les iPin vocalement. On peut aussi l'afficher sur sa main. C'est à se demander s'ils n'ont pas pensé à cette fonction pour générer un effet waouh autour du produit.
Ou quand ils se sont aperçus que finalement c'était bien de pouvoir regarder quelque chose. Oui. Parce que au final, c'est bien le truc, c'est que le smartphone, la smartwatch, il y a un truc que ça fait en plus, c'est que ça utilise plusieurs sens. Donc quand tu utilises, et c'est tout aussi le discours autour de l'intelligence artificielle multimodale, c'est que ça va mieux quand ça utilise l'image, le son et bientôt d'autres sens. Enfin c'est tout, sans le jeu de mots pardon, mais le sens des communications interhumaines, c'est qu'on se parle et on arrive à mieux se parler quand on se voit. Donc c'est là où je trouve que ils font fausse route. C'est vraiment une innovation de 1998 quoi. Pardon, je m'arrête. Je trouve ça lamentable en fait.
Bon, en tout cas, on n'a toujours pas de date de sortie en Europe et en France puisque a priori il n'y a pas encore d'accord avec un opérateur en France puisqu'il est indispensable d'avoir un abonnement mobile sur son iPin pour le faire fonctionner, comme tu l'as très bien dit, mon cher Fabrice. Alors, l'écosystème Apple était donc assez peu représenté à Barcelone cette semaine. Belkin, par exemple, c'était un des premiers noms que j'ai cherché, n'avait pas de stand, pas plus que Anker, le spécialiste des solutions de charge externe. Anker qui participait quand même à l'un des événements presse qui a précédé l'ouverture du salon et qui lançait sa nouvelle gamme baptisée MacGo. Bah, je vous propose d'écouter Emeline Bonnefoy de chez Anker. Elle va nous présenter ses nouveaux chargeurs externes pour iPhone.
Ils sont tous à peu près pareils, donc charge sans fil pour votre téléphone. La seule différence, c'est en fonction de votre utilité. Donc vous allez avoir des chargeurs que vous pouvez prendre avec vous quand vous êtes en voyage ou autre, et des chargeurs que vous pouvez mettre sur votre table, au bureau ou sur votre table de chevet. Vous pouvez charger votre téléphone, mais aussi votre montre, que ce soit une Apple Watch ou également vos écouteurs si vous avez des AirPods ou autre.
Alors on va commencer par ces deux modèles, on va dire mobiles, hein, qu'on a dans son sac et qui permettent de remettre un petit coup de batterie à son iPhone quand on est en panne. Qu'est-ce qui les différencie et quelles sont les caractéristiques sympas de ces produits ?
La majeure différence, ça sera la capacité de la batterie. Donc sur les deux, la première, on est sur du 6600 Et la deuxième, on est sur un petit peu plus de 10 000. Donc pour faire simple, c'est en fonction du téléphone que vous avez et en fonction de vous, ce que vous souhaitez faire avec. Si vous pensez que vous n'aurez pas accès à un câble de rechargement très rapidement, vous pouvez l'utiliser entre une à deux recharges complètes.
Alors, je vais les décrire parce que ce n'est pas forcément évident. Le modèle à 6600 mAh, il a un peu un clapet, on va dire, un peu comme les téléphones à clapet. Il se replie sur lui-même. Donc, on retrouve bien cette charge magnétique qui est équivalente au MagSafe d'Apple, c'est ça, hein ?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il est compatible MagSafe. Et puis le clapet que vous avez mentionné, c'est-à-dire que vous pouvez mettre le chargeur portable sur une table ou autre et vous pouvez directement charger votre téléphone dessus. Mais ça fonctionne aussi en tant que support pour votre portable. Donc vous pouvez regarder des films ou passer des appels vidéo ou toute autre chose en utilisant vos mains et faire autre chose en même temps.
Alors l'autre modèle mobile est un peu plus épais. Enfin non, remarquez, quand le premier est replié, il est peut-être de la même épaisseur que le deuxième. En tout cas, le deuxième, lui, fait donc bien 10 000 mAh. C'est pas un modèle à clapet, on va dire. Il est monobloc, mais il y a un petit trépied à l'arrière.
Oui, voilà. C'est la petite différence, c'est qu'il a le petit trépied à l'arrière pour celui du 10 000 mAh. Et vous allez aussi avoir un petit écran qui vous indique la capacité de batterie restante et aussi comment est-ce qu'il charge et comment il draine le téléphone.
Voilà, écran qui est sur la tranche de ce chargeur et qui indique très précisément le pourcentage de batterie qui reste dans la batterie. Alors ça, c'est les deux modèles mobiles. Maintenant, si on passe au plus gros des modèles de bureau pour sa table de nuit, est-ce que vous pouvez nous le décrire ?
Oui, bien sûr. Alors moi, je l'appelle l'arbre, tout simplement parce qu'il est sur un support qui est rond avec une petite tige. Et la petite tige a deux petits socles, un pour l'Apple Watch et un autre pour le téléphone. Et au niveau du socle, vous pouvez recharger vos écouteurs. Donc ça, c'est le premier. Et le deuxième, c'est également un qui est à clapet. La seule différence, c'est qu'il est relié par un chargeur que vous pouvez brancher sur une prise secteur. Et par la même occasion, vous chargez sans fil votre téléphone. Donc vous avez un support pareil pour regarder vos vidéos ou autres. Et également, vous pouvez charger de la même manière que les autres votre Apple Watch et vos écouteurs.
Alors, en dehors du design, quelle est la différence entre l'arbre et l'autre modèle qui ressemble un petit peu à la batterie mobile à clapet?
Ça va vraiment être en fonction de l'utilisateur et de comment est-ce qu'il perçoit son utilisation. Donc le premier, évidemment, vous pouvez l'utiliser quand vous partez en vacances ou autre et vous pouvez vraiment charger votre téléphone sans fil. Le deuxième, il a besoin d'un câble de rechargement. Donc c'est-à-dire qu'il va vraiment être posé sur un bureau ou une table ou autre. Et ça va être également par rapport à l'espace que vous avez. Il y en a un que vous pouvez poser sur un bureau si vous avez de l'espace, alors que si vous n'avez pas beaucoup d'espace, par exemple une petite table de chevet ou autre, il vaut mieux utiliser un appareil qui est plus petit.
Alors sur le modèle, on va dire qui est à la fois autonome et qui peut se brancher sur le courant, je vois une Apple Watch derrière. Est-ce qu'elle est chargée en même temps que les AirPods et l'iPhone ?
Au-dessous de l'appareil, vous avez un petit clapet qui vous permet de retirer le chargeur pour l'Apple Watch.
Voilà, donc on peut bien charger ces trois appareils en même temps. Alors, en termes de disponibilité et de prix, qu'est-ce que ça donne ?
Alors, ils seront tous disponibles à partir de demain sur le marché français et en termes de prix, donc ça varie en fonction des différents produits. Donc, le tout simple petit pad, on est sur du 29,99. Ensuite, sur le 6600 mAh, on est sur du 69,99. Celui qui est sur du 10 000 mAh, on est à 89,99 €. Et ensuite, pour les deux stations de recharge que vous devez brancher, pour mettre sur, comme ce que j'ai dit, sur un bureau ou autre. Le premier, l'arbre, on est sur du 99,99 €. Et le dernier, on est sur du 109,99 €. Voilà, donc ça varie de 29,99 € à 110 €.
Bon, voilà, de nouveaux chargeurs dans la
galaxie de solutions qui existent. Moi, j'aime bien quand même choisir des marques un peu établies pour mes chargeurs, plutôt que de commander n'importe quoi sur un site de vente en ligne. Je sais pas ce que vous en pensez.
Ben, le problème d'Anker, c'est qu'ils font d'excellents produits depuis des années, mais qu'ils sont super mal distribués en France. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à trouver les produits, sauf si tu les achètes chez Amazon, éventuellement. Mais moi, il y a plein de produits que j'aurais aimé distribuer depuis super longtemps. Et j'ai écrit aux États-Unis, j'ai écrit à l'Europe. Il n'y a pas de distribution en France, c'est étonnant.
Ils ont d'ailleurs construit leur stratégie de lancement sur Amazon. Hein. C'est comme ça qu'ils ont, ils ont démarré. Il serait peut-être temps de passer à un modèle un peu hybride, un peu plus hybride en tout cas. Est-ce qu'il y a beaucoup, Ellie, de chargeurs qui proposent la charge sans fil rapide, donc via le Qi 2, comme on dit?
Il commence à y en avoir de plus en plus. Hein, donc, ouais. Et dans les marques établies que nous connaissons tous, comme Belkin, etc. Donc, c'est quelque chose qui a bien marché, qui s'est un peu tassé parce que les gens qui voulaient charger ont déjà leur chargeur. Alors, ils en sortent tous les ans, ils en sortent des plus en plus jolis, des plus en plus complets, avec plusieurs produits en même temps, etc. Mais c'est pas un produit vedette, c'est quelque chose que les gens achètent s'ils en ont besoin.
Fabrice, tu utilises ces petits chargeurs externes ?
J'ai une batterie externe, mais que je branche avec un fil. Je suis toujours, en fait, j'ai du mal à être persuadé de l'intérêt de la charge sans fil, en fait. Et j'ai un problème avec ça, qui est que c'est très peu efficace en termes d'utilisation de l'énergie. Il y a beaucoup de pertes en chaleur. Et puis, du coup, ça ne permet pas de faire des charges très rapides. La norme Qi2, qui finalement, en plus, rappelons-le, est la norme d'Apple. C'est ça qui est rigolo, hein, en termes de retournement de situation. Le Qi2, enfin, c'est MagSafe, quoi.
Oui.
Mais c'est au maximum 15 watts. Et encore, pas tout le temps. Hein, c'est 15 watts en pic, mais en moyenne, on est plutôt à 7, 8, 9. Et donc, je trouve pas ça très efficace et ça consomme beaucoup d'énergie pour charger peu. Donc, moi, j'avoue que je suis resté plutôt fidèle au câble de recharge. Ça me paraît plus efficace. Voilà, je suis pas convaincu.
Absolument. Alors, ce Mobilo en congrès pour clore cette page Barcelone. Bien, il a réservé finalement assez peu de produits waouh. Je vous en cite quand même deux ou trois. D'abord, sur le stand de Lenovo, on a découvert le tout premier PC portable à écran totalement transparent, un écran micro LED, vraiment comme une plaque de verre en fait, hein, qui offre un rendu assez assez bluffant. Alors, on peut se demander à quoi ça sert, finalement,
bah
quel
oui.
intérêt.
Ah oui.
Hein.
Bah oui.
Ça n'a évidemment pas d'intérêt à la maison, mais dans un magasin, par exemple, ça peut supprimer un peu la barrière entre le vendeur et le client. Ou alors, chez un médecin, ça peut permettre, par exemple, d'afficher sur le côté qui fait face au patient l'ordonnance que le médecin a rédigée. En changeant l'affichage en fait.
Ils ont montré qu'on pouvait afficher dans l'autre sens ?
Apparemment c'est possible, ouais.
D'accord.
Apparemment c'est possible. Donc voilà, ça peut être sympa. Il y a aucun prix, c'est le projet Crystal donc de Lenovo, un concept à base d'écran micro LED qui vaut très très cher. Donc c'est pas pour tout de suite. Il y a quelques mois, j'avais découvert lors de Lenovo Tech World à Austin au Texas un smartphone qui s'enroulait autour du poignet sous la marque Motorola. Eh bien, on a pu le retrouver là à Barcelone. On a enfin pu le toucher parce que en octobre à Austin, on pouvait juste le regarder. Là, on a pu le toucher, on a pu l'essayer. Et dans la discrétion des coulisses de son stand, Samsung montrait un téléphone enroulable au poignet, un petit peu équivalent, donc qui se plie, qui s'arrondit pour pouvoir être clipsé au poignet.
Moi, j'ai vu la vidéo et j'ai trouvé ça bizarre parce qu'il est assez grand, finalement. Ouais. J'ai peur qu'il tombe tel qu'il le plaque. Donc, technologiquement, c'est sympa d'avoir un truc qui s'enroule, mais pratiquement, je ne vois personne porter ça dans la rue. Hein.
Voilà.
Puis tu aurais peur de le taper contre les poignées de porte, etc. Enfin, c'est,
oui.
Ça peut éventuellement être un accessoire de mode pour un défilé, mais à part ça, à part ça, effectivement, il n'y a pas vraiment de débouché.
Comme Karl Lagerfeld qui portait son Apple Watch, mais en mode pas encore programmé. C'était, elle était restée sur le, l'écran de réglage, de paramétrage du début.
Alors, un produit qu'on pourrait peut-être voir arriver chez Apple bientôt, un jour, c'est un anneau, une bague connectée. Oura s'est fait une place au soleil. En l'absence des très grands, mais les très grands sont en train d'arriver. Samsung arrive avec sa propre bague qui s'appelle Ring. Alors, une image et le nom avaient été dévoilés mi-janvier à la fin de la keynote de présentation des nouveaux Galaxy S24. Là, Ring, on a pu le voir sur le stand de Samsung. On a donc pu voir cet anneau qui était sous cloche. On n'a pas pu l'essayer, on n'a pas pu le toucher. On n'a eu aucune info supplémentaire sur les caractéristiques, mais au moins, on l'avait sous les yeux. Donc, trois cloches parce qu'il y a trois couleurs. Il y aura trois couleurs, or, argent et noir. Et il sera disponible en 9 tailles de doigts. Voilà, mais on ne sait toujours pas ce qui va le différencier, notamment des bagues de chez Oura dont tu as un exemplaire, je crois, hein, Fabrice, sur toi.
Oui.
Mais tu sais, c'est très simple hein, pour Samsung. Hein. C'est le jour où ils ont entendu la rumeur qu'Apple allait le sortir, qu'ils ont fait un truc pour le présenter. Cherche pas. Hein. Maintenant, ils attendent qu'Apple annonce les fonctionnalités.
C'est sûr. Voilà, et puis le dernier sujet dont je voulais vous parler à propos de Barcelone, alors ça n'a plus rien à voir avec Apple, mais ça montre qu'on est aussi parfois dans des trucs un peu délirants. Et je suis tombé sur le stand d'un russe d'origine, parce qu'il avait, il avait l'air d'avoir un fort accent russe. L'entreprise s'appelle Olef, elle est basée dans la Silicon Valley et il est en train de travailler sur ce que lui présente comme le vrai premier projet de voiture volante. Donc il y a plein de projets hein, de voitures entre guillemets volantes, mais qui ressemblent plus à des drones ou à des hélicoptères.
Oui.
Lui, dans son cas, il a fait un truc qui ressemble vraiment à une voiture. Un peu inspiré d'une Porsche dans le style, sauf que la carrosserie, au lieu d'être une carrosserie en acier ou en alliage en fait, c'est un filet genre mèche des HomePod, vous voyez,
ouais.
Hein, donc c'est une sorte de filet et sous les filets en fait il y a des hélices.
Il y a des poissons. Voilà.
Wow. Il y a des hélices. Cette voiture, elle a aussi des roues, c'est-à-dire qu'elle roule. Elle roule et elle peut aussi décoller à la verticale. Et quand on est dans l'habitacle et que la voiture décolle, après, pour prendre de la vitesse, je crois qu'elle va jusqu'à 160 km/h, en fait, elle va se mettre sur le côté. Elle ne va pas rester à l'horizontale. Elle va se mettre sur le côté. Et il y a un système, je pense, de gyroscope qui va faire que la nacelle va rester, on va rester à la verticale, quoi. Hein. On va pas se mettre à pencher sur le côté, alors que toute la voiture va pencher. Voilà. Le projet est fou. Ils ont commencé à prendre les commandes. Ça, c'est quand même assez malin parce que faut quand même oser. Il y a 3000 personnes, hein, 3000 personnes qui ont,
wow.
qui ont mis un petit billet. Alors c'est pas grand chose. Hein, c'est 150 à 1500 dollars pour se mettre sur la liste d'attente. Et ils espèrent commencer à la faire voler fin 2025, début 2026. Donc,
ouais, bah, d'ici qu'ils aient l'autorisation en Europe, hein, s'il n'a pas discuté avec Thierry Breton, ça ne va pas être tout de suite. Hein.
C'est ça.
Peut-être raison, que Thierry Breton a réservé la sienne, qu'est-ce que tu crois?
Bon, moins cher que la voiture volante de chez Olef, Patreon pour nous soutenir. Nettement moins cher. Oui, parce que le prix de la voiture, ce sera 300 000 dollars. J'ai oublié de le préciser.
Ah, oui.
Donc,
ah,
bah, oui. Nettement moins cher. Patreon.com/iWeek pour rejoindre la communauté et pour nous soutenir. La page iWeek qui vous offre, sauf exception comme cette semaine, parce que je suis entre deux avions, c'est de ma faute, le bonus hebdo auquel vous avez droit, évidemment, juste après le générique de fin. On a besoin que vous soyez encore plus nombreux pour nous aider à développer iWeek. Merci à ceux qui nous soutiennent, merci à tous ceux qui nous rejoignent aussi en écoutant les épisodes qu'on vous propose. Votre présence est super importante. On passe au coup de cœur et au carton de la semaine. Si vous en avez, Fabrice,
moi,
tu
fais
coup
de cœur, ouais. Ah. Un petit coup de cœur rapide. Je sais pas si vous avez vu, il y a un navigateur dont on parle depuis quelque temps qui s'appelle Arc, qui est arrivé sur Mac. Mais il y a une version pour iPhone que je trouve plus intéressante que celle sur Mac. C'est un inconvénient, c'est que les deux applications sont pas exactement les mêmes. Ça rend pas exactement les mêmes services, mais celle sur iPhone est vraiment intéressante parce que d'abord elle est simple, l'interface est assez agréable à utiliser, et puis elle repose vraiment pas mal sur l'intelligence artificielle de manière assez maline, c'est-à-dire que quand on donne des mots clés pour faire une recherche, on peut lui demander, je crois que ça n'existe qu'en anglais, hein, browse for me, donc navigue pour moi. Et l'application va créer une page web à partir de différentes sources que l'application montre, hein, d'ailleurs les sources sont montrées, et on va avoir du coup une page de réponse à peu près mise en page, et c'est plutôt pratique.
Oui, je m'en sers tout le temps. C'est très
et voilà. Et l'autre truc que ça fait, c'est quand on est sur une page web, on peut faire un mouvement de pincement, comme si donc on a les doigts écartés puis on pince vers l'intérieur. Et à ce moment-là, le navigateur va faire un résumé de la page qu'on est en train de lire. Et donc, c'est super pratique, c'est très adapté justement à l'utilisation sur un mobile. Et je me surprends en fait à utiliser ça maintenant sur l'iPhone plutôt que Safari, parce que, je sais pas pour vous, mais globalement sur l'iPhone, c'est pas pour lire des longs trucs, c'est pour faire une petite recherche, etc. Ça a remplacé pour moi, par exemple, quand je me demande, tiens, qui c'est qui joue, c'est qui l'acteur qui joue, ceci, cela, bah je vais là. Plutôt que d'aller sur IMDb ou sur une application qui est assez nouvelle, qui s'appelle Crawlsheet, qui existe depuis 2-3 mois, qui est très bien. Mais en fait, on n'a pas besoin, parce que tu mets ça là-dedans et t'as tout, quoi. Voilà. Donc, ça s'appelle ArcSearch. C'est qu'en anglais, l'interface pour le moment, mais c'est disponible, j'ai vérifié sur l'App Store français. Et ça vaut le coup d'essayer. Ça vaut le coup d'essayer.
Eh ben, super, merci beaucoup, Fabrice. Élie, est-ce que tu as un petit coup de cœur?
Bah non, parce que j'allais dire d'une, deux, mais j'ai pas eu le temps d'y aller. Donc je peux pas vous en parler encore.
Il paraît que c'est très très bien.
Il paraît, c'est pour ça.
Je suis d'accord avec toi. Bon, moi j'ai un petit coup de cœur à vous proposer. Alors je vais essayer de tenir le micro parce qu'il faut que je vous montre deux chargeurs secteur. Alors celui-là, vous le connaissez, c'est le... Oui. C'est le chargeur. Alors, dans mon cas, c'est un 96 watts parce que j'ai un 14 pouces, un MacBook Pro, avec un seul port USB-C. Et je vous présente le 160 watts de chez Ugreen avec 4 ports USB, donc 3 USB-C, et sur les 3 il y a 2 ports pour un MacBook Pro et un iPad par exemple, ou 2 MacBook Air, enfin voilà. Donc voyons, en termes de compacité, il est plus petit que celui d'Apple. Il est certes un petit peu plus épais, voilà, pas beaucoup. Il n'est pas plus lourd, je crois pas. Et en fait, j'en porte un seul chargeur au lieu d'en emporter 3 ou 4.
Mais oui, le fait d'avoir 4 prises comme ça, c'est pratique. J'en ai
et
un comme
c'est
ça,
vachement
moins
pratique.
Puissant, mais c'est vachement bien.
C'est vachement pratique. Donc voilà, c'est le Nexode Pro 160 watts, 4 ports. En plus, c'est du GaN, du nitrate de gallium, si je ne me trompe pas.
Gallium, oui.
Chargeur rapide, voilà, 119,99 €. Et puis, il ne chauffe pas beaucoup. Voilà, il était branché depuis le début de notre enregistrement.
C'est pour ça que tu as disparu sous la table. Allez voir la vidéo, monsieur, dame, parce qu'il y a un moment, j'ai parlé dans le vide quand même.
J'ai 3 prises sur 4.
Heureusement qu'Eli était encore là pour m'écouter.
Exactement.
Attentivement.
J'ai 3 appareils sur 4 branchés et il est à peine tiède. Voilà, dont mon MacBook Pro 14 qui marche pas mal puisqu'on est en train d'enregistrer. Donc il y a quand même pas mal de ressources qui sont prises. Donc pour l'instant, je suis très content de ce chargeur et c'est chouette d'en prendre qu'un au lieu de 3 ou 4.
Le problème, c'est que si tu l'oublies quelque part, tu ne peux plus rien charger.
C'est ça. C'est une bonne remarque. Merci, Élie.
Il faut en avoir plusieurs. C'est comme les iPads.
C'est ça. Bon voilà, c'était l'épisode 175 d'iWeek, la semaine Apple. Si vous aimez notre rendez-vous hebdo, abonnez-vous aussi à iWeek Express sur toutes les plateformes de podcast. C'est aussi gratuit. On compte et on a besoin de vos notes 5 étoiles et de vos avis sur Apple Podcast. Et puis bien sûr, toujours à patreon.com/iWeek pour rejoindre la communauté et nous soutenir. Merci les amis, merci Fabrice Neumann.
Merci Benjamin, merci Ellie, merci à toutes et tous.
Neumann.fr bien sûr, pour ne rien rater de ton actualité.
Exactement.
Ellie Abitbol, merci d'avoir été là Ellie, c'est un grand plaisir.
Ben oui, c'était un vrai plaisir de revenir à l'antenne et puis je vous dis à bientôt à tous.
Ah oui, avec grand plaisir. On fait une bise aux absents Gilles, François et Baptiste. Bien sûr, les réseaux pour nous suivre, Threads, Blue Sky, X, ex-Twitter et Mastodon. Vous cherchez iWeek News ou iWeek.news. Et puis le hashtag iWeekLSA. À ne pas oublier pour qu'on suive tout ce que vous allez exprimer après nous avoir écoutés. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine. Ce sera l'épisode 176. Salut à tous et à très vite. Bye bye.
Bye-bye.